BFM Business présente. BFM Entreprise, leadership, la méthode. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Entreprise consacré comme tous les lundis au leadership. Une demi-heure avec un leader, un patron qui va nous expliquer comment il dirige, son parcours, sa méthode, les clés de sa réussite, les épreuves aussi qui l'ont forgé. Quel meneur est-il ? BFM Entreprise aujourd'hui, c'est avec Henri Giscard d'Estaing.
BFM Entreprise, leadership, la méthode sur BFM Business.
Bonjour Henri Giscard d'Estaing.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir dans cette émission sur le leadership. Alors, ça tombe très bien, vous êtes le récent fondateur de l'École du leadership de Paris. C'est une école de pensée, on va évidemment y revenir dans le détail, pourquoi vous avez créé cette école. Mais avant tout, je commence toujours par cette question. Est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on le devient au cours de sa carrière ?
Moi, je crois qu'on peut le devenir. Alors, on a peut-être des qualités inhérentes au point de départ, mais ça s'apprend. Et moi, ce qui me concerne, si je ne prétends pas être un grand leader, mais je l'ai appris auprès de mes mentors, Antoine Riboud, je l'ai appris par l'expérience et les expériences successives. Et ça s'apprend.
Qu'est-ce qui fait justement un leader ? Qu'est-ce qui le définit ? C'est le fait d'emmener une équipe dans un projet ? C'est le fait, effectivement, de diriger les entreprises, leur stratégie ? Pour vous, c'est quoi le plus important dans cette notion-là ?
Alors d'abord, et on y reviendra, j'espère, on peut être leader à tout niveau. Pour moi, le leadership, ce n'est pas réservé aux seuls dirigeants. Il y a des responsables d'équipe dans toute une série de domaines qui sont des leaders qui emmènent leur équipe. Donc, ça répond là à votre question. Un leader, c'est quelqu'un qui conduit, qui ne fait pas tout, mais qui conduit un projet et qui donne constamment du sens et du feedback.
C'est aussi savoir s'entourer. J'ai beaucoup entendu ça dans cette émission, prendre des gens compétents dans leur domaine, des gens de confiance qui, au-delà de vous seconder, vous font avancer.
J'irais même presque plus loin. C'est ce que nous disait Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, qu'on recevait dans un atelier du leadership, de l'École du leadership de Paris lundi dernier. Il disait qu'il faut savoir s'entourer de gens meilleurs que soi. Et je crois qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il faut être entouré des meilleurs. Ça, c'est tout à fait clair. Pourquoi ? Parce que le leadership, c'est en aucun cas une aventure solitaire. C'est un projet collectif mené par une équipe.
Ça veut dire que quelque part, il faut mettre son ego de côté.
Alors, s'il y a un ennemi du leadership, c'est l'ego. L'ego est quelque chose qui ne peut que créer la dérive du leadership, et on en a vu malheureusement quelques exemples.
Comment vous est venue justement cette envie de créer l'école du leadership ? Expliquez-nous déjà ce que c'est que cette école du leadership.
Alors l'envie, elle est venue de discussions que j'ai eues avec un vieil ami, Jean-Pierre Raffarin, qui s'est intéressé depuis maintenant longtemps à ces questions de leadership, appliquées là plutôt à l'univers géopolitique. Et je me suis dit, on s'est dit tous les deux, et puis ensuite rejoint par les dirigeants de l'ESCP, que ça valait la peine de créer quelque chose qui puisse rassembler les pensées, les pratiques et les expériences de leadership à l'européenne. Puisque aujourd'hui, vous le savez, le leadership tel qu'il est étudié ou tel qu'il est enseigné vient essentiellement d'Amérique du Nord et des États-Unis. Il y a des choses très intéressantes dedans et les grandes entreprises américaines en témoignent. Mais on est malgré tout différent et je crois qu'on a apporté quelque chose dans ce domaine.
Vous l'avez dit, donc le SCP et la Fondation Prospective Innovation de Jean-Pierre Raffarin sont les parrains de cette initiative. Concrètement, ça s'organise comment cette école du leadership ?
Alors, ça s'organise de deux manières. Une manière, j'allais dire, académique, puisque c'est quand même un sujet qui mérite d'être étudié par des professeurs dans le cadre d'une chaire, et une chaire du leadership de transformation a été créée à l'ESCP. Et puis, ça s'organise de manière pragmatique par la collecte d'expériences de personnes qui ont été des leaders ou qui ont vu opérer ou connu des leaders, pour essayer de comprendre quels sont, en effet, les ressorts du leadership, les méthodes du leadership, et en essayant de le faire sur des univers très différents. Bien sûr, l'entreprise, mais il y a aussi le sport. C'est pour cela que nous avons reçu Amélie Oudéa-Castéra, au titre de sa la grande variété de son expérience, mais aussi de son expérience de départ, qui était d'être championne de tennis. Et par exemple, elle nous disait, le feedback dans le sport, feedback is a gift. Un sportif ne peut pas gagner, ne peut pas progresser s'il ne reçoit pas de feedback et s'il n'entend pas le feedback. Et le feedback est, de mon point de vue, une des dimensions très importantes du leadership d'aujourd'hui et de demain. Mais aussi, nous avons l'intention de recevoir des dirigeants militaires. Nous en avons reçu le général Durieux pour le forum du leadership il y a quelques semaines. Les militaires, aujourd'hui, sont probablement ceux qui ont une expérience et une connaissance du leadership des plus intéressantes.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de la domination américaine, vous parlez de l'intérêt de comprendre et de peut-être transformer le leadership, d'en faire un à l'européenne. Justement, quels sont les atouts de l'Europe aujourd'hui dans un monde polarisé, dans un monde entre la Chine et les États-Unis? Quelles sont nos forces? On a l'impression qu'aujourd'hui, on n'en a plus conscience de nos forces. Et qu'est-ce qu'on doit réapprendre pour trouver notre place?
Moi, je crois d'abord qu'il y a des grands leaders européens et on a malgré tout des entreprises ici en France et en Europe de très grande qualité qui sont des champions mondiaux. J'espère que ce que j'ai réussi à faire au Club Med puisse en être en tout cas un exemple. Mais on est différent. On est différent dans la culture américaine. Le leadership, vous savez sans doute, est fondé notamment sur une donnée qui est l'optimisme. Là où ils ont raison, c'est que le pessimisme n'a jamais entraîné les équipes et créé un projet. Mais ça vient de leur culture, de leur histoire. Nous, je pense que ça doit être plutôt un esprit positif qui doit nous animer. Chercher dans la difficulté, dans le challenge, le moyen de rebondir, le moyen de faire mieux. Donc il y a, on le voit bien, des nuances importantes. On a, je crois, une culture aussi qui est plus tournée vers le collectif. Et ça me paraît essentiel. Le leader aujourd'hui, c'est quelqu'un qui emmène des équipes dans un projet collectif dans la durée. Et cette notion de collectif, elle s'exprime souvent, par exemple en Europe, par le fait qu'on parle de ses collègues, alors que aux États-Unis, on parle de son équipe.
Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant comme différence. Évidemment, tout cela, ça s'apprend au fil des années. Vous avez par exemple passé 10 ans chez Danone, déjà. Vous avez ensuite évidemment passé une trentaine d'années au Club Med. Qu'est-ce que vous en tirez de ces expériences-là? Le Club Med spécifiquement, vous en avez fait une marque incroyable, vous l'avez transformé, vous l'avez premiumisé. Évidemment, il y a du temps long là-dedans. Peut-être qu'aujourd'hui, on a moins cette opportunité d'avoir le temps de faire les choses, mais qu'est-ce que vous en avez retiré, justement, de tout ça?
Ah ben, j'en ai retiré, j'allais dire, plein de choses et plein d'enseignements, et c'est ce d'ailleurs que j'essaie aujourd'hui de transmettre. La première des choses, c'est que si on veut conduire une transformation, il faut d'abord commencer par le diagnostic. Et je suis surpris du fait qu'on ne passe pas assez de temps et d'attention sur le diagnostic. Ce serait comme un médecin qui vous recommanderait un médicament ou un traitement sans vous avoir examiné. Le diagnostic est essentiel. Et par exemple, lorsque nous avons dû engager la montée en gamme du Club Med, nous avons pris le temps de faire le diagnostic sur la situation de la marque, du marché, de la concurrence, de ce qu'on pouvait voir de l'avenir. Mais un diagnostic qui est fait par les seuls dirigeants, ça sert à rien. Il faut que le diagnostic il soit partagé. Le partage du diagnostic, c'est le début, c'est le fondement de la transformation. Nous avons aussi reçu dans nos réunions de l'école du leadership Philippe Val, le patron de la Poste, qui a transformé la Poste. Lui, il était obligé de le faire, puisque il y avait, quand il a commencé, 15 milliards de lettres, et à l'arrivée, il n'y en avait plus que 5. Donc, il n'avait pas le choix. Et il dit, nous avons fait 10 000 réunions avec les postières et les postiers pour leur expliquer notre environnement, pour expliquer où on veut aller. Et à partir de là, on a élaboré notre vision. Et cette vision, fondée sur un diagnostic partagé, c'est celle qui va entraîner le mouvement. Alors une vision sans qu'elle se traduise dans la réalité, c'est au mieux une belle pensée et au pire un rêve. Mmh. Il faut qu'elle se traduise par des priorités stratégiques qui, à ce moment-là, peuvent se mettre en œuvre. Il y a donc une méthode. Et au-delà, il y a le recours à des projets, enfin, voilà, bien élaborés là-dessus.
Et l'importance des remontées terrain et d'être constamment en contact avec les équipes. Vous, vous avez fait le tour du monde combien de fois, Henri Giscard d'Estaing, à travers cette activité-là?
J'ai passé, alors toute mon temps de responsabilité, une nuit par toutes les deux semaines en avion. Donc, fréquenter les aéroports. Et ça, parce qu'effectivement, et c'est ce que Antoine Riboud m'avait appris, il faut savoir diriger avec les yeux et les oreilles.
Et bien justement, on va passer à la photo tout de suite.
BFM Entreprise, leadership, la méthode.
Je trouve ça très intéressant parce qu'habituellement, quand je demande à mes invités, amenez-moi une photo du travail, une photo qui est importante pour vous, les patrons m'apportent une photo d'eux-mêmes dans une situation professionnelle. Là, c'est pas vous, justement.
Non, c'est Antoine Riboud, le fondateur de Danone.
Oui.
C'est d'abord une magnifique photo, oui, faite par son frère Marc Riboud, qui a été un des très grands photographes de sa génération, donc sur la Grande Muraille. Et Antoine fait goûter un yaourt à une petite chinoise. Et ça, dans les années 80. C'est pour moi une photo très, très inspirante, parce qu'elle montre quelqu'un qui a été un leader. Et un leader de transformation, pour se souvenir que Danone était d'avant BSN, une entreprise de taille moyenne de verre, qui a tenté de faire une OPA sur le géant Saint-Gobain, qui n'a pas réussi, et qui, au lieu de se décourager, a dit on va se transformer en société alimentaire, on va remplir les bouteilles. Et donc, Antoine était un leader transformatif. C'était aussi quelqu'un qui avait une vision de l'entreprise et du rôle de l'entreprise. Il avait élaboré ce qu'il appelait le double projet économique et social, pensant qu'on ne pouvait pas réussir économiquement si ça ne s'accompagnait pas d'un progrès social. Et puis c'était un pionnier, on le voit ici, faire goûter du yaourt à des Chinois dans les années 80, c'était totalement innovateur.
Ce sont ces qualités-là qui ont déclenché chez vous justement, ce sentiment que cet homme-là serait votre mentor?
J'allais dire, il l'est devenu naturellement quand j'ai commencé à travailler pour lui. C'était par ailleurs une personnalité extrêmement chaleureuse, originale, qui s'intéressait à toutes sortes de sujets, mais qui avait une détermination pour le succès de son entreprise qui était totale.
On va passer à la suite des questions.
BFM Entreprise, leadership, la méthode.
Vous avez parlé du rôle de l'entreprise, de la place qu'elle prend, de la façon dont on la dirige. En quoi l'entreprise aujourd'hui est essentielle dans le fonctionnement de notre pays? On a vu dans un sondage il y a quelques mois la population revenir vers les patrons, leur redonner leur confiance. Ils n'avaient plus cette confiance, ils ne voyaient plus les patrons de cette façon-là ces dernières années. Là aujourd'hui, la confiance est revenue. Qu'est-ce qui fait que les gens se tournent à nouveau vers celui qui dirige l'entreprise? Et vers quoi les patrons aussi doivent aller pour continuer à avoir ce crédit dans les années qui viennent?
D'abord, les patrons doivent devenir des leaders, ou doivent être des leaders. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de diriger qui compte, c'est le fait d'entraîner sur un projet collectif qui doit avoir un sens qui va au-delà de l'entreprise. Mmh. Et c'est parce que celui-ci se développe, sans doute, que l'entreprise est regardée aujourd'hui de manière différente et plus positive. Ce sens, pour le Club Med, c'était facile, c'était réinventer le bonheur chaque jour pour nos clients. Je reconnais que dans certains domaines industriels, c'est sans doute plus difficile de trouver un sens qui soit aussi entraînant. Mais il faut que ce sens, il ait par ailleurs une dimension collective. Qu'est-ce que l'entreprise apporte autour d'elle et apporte à la collectivité? Pour nous, c'était d'être un oasis de bonheur dans un monde qui ne l'était pas. Et puis, quel sens ça a pour chacune et chacun? Puisqu'aujourd'hui, on est dans une société individualiste, et où chacune et chacun souhaite voir ce que ça lui apporte. Et là, il faut être c'était notre projet, une école de vie ou un moteur de promotion, en sachant que les nouvelles générations sont encore plus exigeantes dans ce domaine.
Oui, parce que vous l'avez dit, on est dans une époque où on sape le collectif, on sape le rôle social de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous demandent dans cette école, dans cette expérience que vous commencez à avoir justement avec l'école du leadership? Quelles sont les remontées de ces patrons que vous rencontrez dans un monde comme celui-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'ils veulent?
D'abord, moi je sens chez eux une confiance dans l'avenir, dans la capacité à mobiliser. Alors ça demande des caractéristiques, ça demande une méthode, j'ai parlé du diagnostic partagé, de la vision qui engage collectivement, individuellement, ça demande des méthodes de management, comme l'on dit, le feedback, la considération pour les équipes et chacune et chacun, ça demande une volonté de s'inscrire dans la durée, ce qui n'est jamais facile, mais on ne fait rien de grand sans un minimum de durée, et la cohérence. Il faut que celles et ceux qui vous regardent comprennent que vous êtes pleinement engagé dans le projet et que vous êtes en ligne avec celui-ci. Et la cohérence est aussi une des grandes dimensions. Je préfère dire ce terme à l'exemplarité, parce que l'exemplarité peut tourner au culte de la personnalité, qui est un des grands dangers.
On arrive à l'ego.
À l'ego et la dérive du leadership. Mais la cohérence est aussi essentielle.
Tout le monde ne peut pas l'être, chef d'entreprise.
Chacun a sa place. Dans une entreprise, par exemple, il y a des experts qui n'ont pas vocation, dirais-je, à avoir mais ils sont essentiels, et en particulier dans les immenses changements technologiques dans lesquels nous nous trouvons. Chacun peut être le leader, d'abord de soi-même, puisque ça commence par ça, et puis le leader d'une équipe par des approches qui font partie, pour moi aussi, de la méthode de leadership, l'approche projet. C'est-à-dire sortir de son niveau de compétence pour être avec d'autres pour conduire un projet. C'est une des façons d'apprendre le leadership.
C'est plus difficile d'être un patron aujourd'hui qu'il y a 20 ans, où les problèmes à régler, l'environnement sont différents.
C'est plus exigeant. Il y a 20 ans ou 30 ans, le patron avait par nature l'autorité. Il était considéré comme, ce qui n'était pas bon, patron de droit divin. Donc, c'était sans doute plus facile puisqu'il suffisait, entre guillemets, de commander. Je suis pas du tout sûr que ça donnait le bon résultat, mais c'était comme ça. Aujourd'hui, effectivement, il doit être reconnu, accepté, et il doit trouver sa légitimité auprès de ses équipes et constamment la renouveler. Sachant qu'en effet, nous vivons dans un monde chaotique, incertain, complexe, et que c'est d'autant plus difficile.
J'ai un patron qui m'a dit sur ce plateau, avant, finalement, on donnait tout pouvoir aux politiques parce qu'ils avaient la capacité de faire, la légitimité et la crédibilité. Aujourd'hui, et le temps long, aujourd'hui, ils n'ont plus tout ça, de par la façon dont les choses fonctionnent. En revanche, les patrons ont davantage ces capacités d'agir, ce temps long, cette légitimité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que finalement, ce sont les patrons qui vont un petit peu prendre le relais et de l'action et de l'efficacité dans la vie des Français par rapport aux politiques qui avaient ce poids-là avant dans la société?
D'abord, il est quand même souhaitable qu'il y ait des grands leaders, hommes ou femmes, politiques. Mm-hmm. La France et l'Europe en ont besoin. Et c'est sans doute là beaucoup plus difficile encore que ça ne l'était dans le passé. Mm-hmm. Que les patrons aient une capacité à faire, c'est une réalité. Moi, le bonheur que j'ai eu dans mes responsabilités, c'était de faire. Ça a été de transformer cette entreprise et d'en faire un champion mondial. C'est vrai qu'on a probablement plus de marge de manœuvre que dans l'environnement politique. Mais j'ai moi-même été, à mes tout débuts, un homme politique. Je sais combien c'est à la fois difficile, mais je sais combien c'est aussi une bonne école, puisque il faut écouter et il faut convaincre, car c'est l'électeur qui décide.
Henri Giscard d'Estaing, quelle est votre plus grande réussite avec le recul?
C'est le succès de beaucoup de celles et de ceux avec qui j'ai travaillé. Je pense que la plus grande satisfaction d'un dirigeant, à un moment, c'est de voir le progrès, l'épanouissement de celles et de ceux avec qui vous travaillez. Et moi, le fait d'avoir vu dans ma carrière et dans ma responsabilité, notamment au Club Med, des garçons et des filles qui démarraient et qui très vite grandissaient, élargissaient leurs compétences, prenaient des responsabilités et s'épanouissaient, pour moi, c'est la plus grande satisfaction.
À l'inverse, j'ai envie de vous demander quel est votre plus gros échec, mais par là, je demande presque celui qui vous a fait rebondir derrière. Parce qu'en France, on a une idée un petit peu négative de l'échec, alors que souvent, ça permet de rebondir.
Ben, c'est sans doute d'avoir mis tant de temps, par exemple, à transformer le Club Med. On va dire c'est un échec. Il a fallu 20 ans. Il faut du temps long. Mais je ne croyais pas, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. C'est d'ailleurs probablement pour ça que j'ai pu l'avoir.
Quel est le rôle qui vous a apporté le plus de satisfaction ou de connaissances ?
Ce que j'avais fait aux côtés d'Antoine Riboud, puisque Antoine Riboud m'avait recruté comme directeur de développement, en me disant, Henri, on va faire l'Europe de BSN, puisque ça s'appelait encore à l'époque BSN. Et donc de faire les très grandes acquisitions qui ont fait BSN, Nabisco, Galbani et toute une série d'autres grandes entreprises. Et je veux dire que ce sentiment de construire était pour moi cette impression de bâtir quelque chose de très important. C'est ce que j'ai retrouvé au Club Med en transformant son parc de village et en faisant éclore des resorts dans les plus beaux endroits du monde, en les construisant très vite, en général, en respectant les budgets et en faisant en sorte que ce soit des lieux de bonheur pour nos clients.
Quand on vous écoute, ça a l'air presque facile, hein, mais j'imagine que...
Il y a quelques difficultés au passage.
Forcément, effectivement. Pour une toute dernière question, j'aimerais savoir ce que vous aimeriez dire... justement au regard de cette école du leadership, à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut entreprendre, qui veut construire, qui veut faire avancer le pays, la croissance.
Ben, je lui dirais, tu pourras devenir un leader. Pour ça, ben, il faut regarder autour de toi, écouter, apprendre, tirer toutes les conséquences positives de tes succès et positives de tes échecs, puisque c'est là où on apprend le plus, en effet, comme on vient de le dire. Et tu trouveras de nouveau dans le fait d'entraîner une équipe, de faire progresser celles et ceux qui t'entourent et de réussir ton projet, une immense satisfaction.
Mais sur du temps long.
Mais il faut du temps.
Il faut du temps, effectivement. Merci beaucoup Henri Giscard d'Estaing d'être venu dans cette émission Leadership. Si vous voulez vous aussi connaître la méthode des leaders, l'émission est disponible en replay, en podcast, sur nos réseaux sociaux, évidemment. Et c'est le lundi à 12h30 sur BFM Business. Passez une très bonne journée.
BFM Entreprise, Leadership, la méthode sur BFM Business.